Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous servir. Comment améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'handicap? On en parle aujourd'hui dans cette émission avec Maître José Ndoubi, promoteur de l'ONG Le Verso du Handicap, qui sera là dans quelques instants pour nous édifier par rapport à ces thèmes. Il est déjà en ligne. Maître José, voilà, on me fait signe qu'il y a encore... qui sera très bientôt en ligne. Des questions et préoccupations par rapport à ces thèmes, appelez au 099-706-9941. 099-706-9941. Participation de la femme. Quelles sont les forces et les faiblesses de la loi électorale par rapport à la participation de la femme dans la politique? Eh bien, on en parle avec Madame Angèle Moadi, qui est femme politique. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941, 099-706-9941. Pierre Diassinois à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama. Bienvenue à tous.
Okapi, Radio Okapi.
Bien, encore une fois... Bienvenue, ravi de vous retrouver, fidèles auditeurs, dans ce magazine Okapi Service. En RDC, on estime à 15% le nombre de la population qui vit avec un handicap, soit près de 10 millions de personnes, selon les statistiques d'handicap international. Déjà confrontées à de nombreuses contraintes en matière de santé, les personnes vivant avec handicap doivent encore faire face à la discrimination et à la stigmatisation dans la société. Et pourtant, il existe depuis 2002 une loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Alors, quelle stratégie mettre en place pour faire respecter les droits de ces personnes dans les différents domaines, dans les différents secteurs, par exemple la santé, l'éducation, l'emploi et autres? Eh bien, nous en discutons à présent avec notre invité, Maître José Zoubi. Bonjour.
Bonjour Jody Kachama, bonjour aux millions d'auditeurs qui suivent à la Radio Capi maintenant.
Et bienvenue Maître José, vous êtes promoteur de l'ONG Le Verso du Handicap. Nous parlons de l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Alors la première question est de savoir quel état des lieux vous faites par rapport à la situation des personnes vivant avec handicap en RDC.
Merci Jody pour l'opportunité que vous nous accordez aujourd'hui de nous adresser encore à vos millions d'auditeurs ainsi que à vous-même. Mais pour répondre à votre question, c'est que la situation de la personne avec handicap en RDC est tributaire de la situation que nous vivons au pays. Vous comprenez que la situation du Congolais moyen est déjà assez difficile, pour ne pas dire catastrophique. Parlant de la personne avec handicap, qui est une personne déjà assez limitée, qui n'est pas dotée vraiment de toutes ses capacités pour faire face aux défis de la vie. Vous comprendrez que la personne avec handicap rencontre encore beaucoup de difficultés dans la vie et a plusieurs défis encore à relever. Pour le moment, comme vous l'avez si bien dit à l'introduction de votre émission aujourd'hui, la personne avec handicap au Congo fait face à beaucoup de difficultés, notamment à l'accès à l'éducation. Quoi qu'on ait parlé de la gratuité de l'enseignement, mais ça c'est au niveau primaire. Les quelques-unes des personnes avec handicap, disons d'enfants vivant avec handicap, qui étudient encore peut-être au niveau primaire gratuitement comme les autres dans des écoles. Bon, vous connaissez les écoles de l'État peut-être, avec ce qu'ils ont comme qualité d'enseignement également. Ils ont du mal finalement à franchir les cycles des humanités. Et quand bien même il terminerait les études, jeudi, la grande difficulté encore reste l'accès à l'emploi. C'est que là, il y a plusieurs préjugés encore qui entourent cette catégorie de personnes. Il y en a qui pensent peut-être que les personnes avec handicap sont de bons à rien. Il y en a qui pensent que peut-être elles ne seront pas données les meilleures d'elles-mêmes, quand bien même elles occuperaient un poste. Bon, tout ça, je vous dis, c'est assez difficile, sans compter le fait que, bon, avec cette situation de guerre que nous vivons encore à l'est de notre pays, qui ne fait qu'augmenter encore le nombre de personnes avec handicap. Donc, le tableau n'est pas du tout réjouissant, mais en tout ça, il faut se réjouir du fait que, vous l'avez aussi relevé à votre introduction, il y a cette loi portant protection de la personne avec handicap qui a été promulguée par les chefs de l'État. Et il y a quelques jours encore, au mois d'octobre, les chefs de l'État a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation autour de cette loi. Mais tout ce qui est repris dans cette loi-là, je vous dis, il y a peut-être un grand fossé entre ce qui est écrit et ce qui devra être exécuté. Il faudra peut-être attendre que ça puisse être mis en application pour que nous puissions voir qu'est-ce qui sera fait réellement en faveur de la personne avec handicap. Voilà un peu, en grosso modo, ce que nous pouvons dire quant à ce qui concerne la situation de la personne avec handicap au Congo, quoi.
Bien. Alors, mais il existe déjà une loi a été votée et promulguée, une loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Est-ce que cette loi est déjà d'application?
Oui, je dis, il faut dire la vérité, c'est que la loi est déjà d'application. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le président de la République lui-même l'a promulguée déjà, et cette loi-là a même été comment? C'est la loi organique numéro 022/003 du 3 mai 2022. Le président de la République l'avait promulgué, effectivement, ça a été même promulgué, ça a été même publié dans les journaux officiels. Et je vous ai dit que vers mi-octobre, lui-même, le président de la République a procédé encore au lancement officiel de la campagne de sensibilisation autour de cette loi. Mais maintenant, on est en train de vulgariser, je dis. Il va falloir attendre encore que les gens puissent s'en imprégner et que les gens puissent réellement commencer à la mettre en pratique. Quand on parle, par exemple, du domaine de l'emploi, par exemple, il est dit que les entreprises doivent favoriser, comment dirais-je, l'emploi ou l'accès à l'emploi de cette catégorie de personnes. Mais il faut voir d'abord dans les services publics de l'État, il y a combien de personnes vivant avec handicap. Je crois que l'exemple devrait venir d'abord de là. Au niveau du gouvernement même, il faut dire que bon, c'est déjà un pas que le président de la République ait désigné une ministre déléguée à la personne avec handicap. Ça, c'est au niveau du gouvernement central, mais au niveau de provinces, il n'y a rien qui est fait. Aucune disposition n'est prise pour que, au niveau des gouverneurs, des provinces, que cette disposition soit également intégrée. Donc, je crois que l'exemple devait venir d'abord des services de l'État. Nous sommes en train, nous, par exemple, là, je vous parle, je suis à Kikwit, nous sommes en train de lutter pour que, au moins, à partir d'ici, que par exemple le maire de la ville ou le bourgmestre puissent avoir dans leur bureau quand même certaines représentativités des personnes avec handicap qui sont compétentes, je dis. Il y en a qui sont des diplômés, il y en a qui sont des licenciés. Là, je vous parle, je suis au centre des personnes avec handicap de Kikwit, HP Kansig. Ben, c'est difficile. Donc, il y a certaines dispositions de la loi qui devront être mises en pratique. Pour le moment, la loi existe, les dispositions sont là, mais vous savez très bien que dans notre pays, ce ne sont pas les...
Oui. Allô, monsieur, maître José?
Les lois qui manquent.
Oui.
Le président de la République essaie de la promulguer. Ben maintenant, on va voir comment ça va être concrétisé, quoi, tu vois.
Voilà. La loi existe déjà, mais son application n'est pas... n'est pas toujours effectif. On va accueillir Justin de Bounia. Nous parlons aujourd'hui de la protection, comment améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Justin, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité, aux auditeurs, aux auditrices de Radio Okapi.
Quelle est votre question?
Oui monsieur Jody, avant que je pose mes deux petites questions, j'ai une suggestion quant à ça monsieur Jody.
Oui.
Oui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, M. Jody, oui, nous avons des lois, comme l'invité a dit, mais qui ne sont pas toujours respectées, M. Jody. Vous voyez, il y a des lois qui, en tout cas, qui protègent les personnes vivant avec handicap. Oui, mais aussi, M. Jody, parfois nous pensons, il y a certaines personnes qui pensent que non, un handicap, et il n'a pas droit en tout cas de travailler, ou il doit travailler seulement dans un bureau, alors qu'un handicap aussi, on peut donner aussi un métier un peu pratique, monsieur, je dis. Par exemple, la mécanique, par exemple, la coupe coutille et ainsi de suite. Alors, la plupart des gens pensent que non, un handicap, c'est seulement rester au bureau et ainsi de suite, alors qu'il peut faire aussi tout travail. On ne voit pas même être député ou parlementaire, monsieur, je dis. Alors, ma question est celle de savoir, oui, je pense que la loi qui protège en tout cas les handicaps a été promulguée. Je pense que c'est depuis 2006, si j'ai une bonne mémoire.
Alors, d'après les auditeurs, d'après les informations reçues, c'est depuis 2022. Bon, notre invité nous va le confirmer ou pas. Alors, quelle est la question?
Okay. Oui, je m'excuse. Alors, si c'est depuis 2022, alors que les handicaps, monsieur Jody, n'ont pas commencé, n'étaient pas seulement en 2022, alors que c'est depuis lors que les handicaps étaient dans notre
économie. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour améliorer leurs conditions, par exemple, par rapport à l'accès à l'emploi? Qu'est-ce qui peut être fait?
Oui, en tout cas, pour moi, ce qui doit être fait, en tout cas, pour améliorer la vie et les conditions à l'emploi, l'accès à l'emploi aux handicaps, d'abord, nos lois, les lois pour protéger les handicaps doivent être mises en vigueur. Ça, c'est la première chose comme ma suggestion. Et maintenant, ma question est celle de savoir pourquoi depuis 2022, comme l'invité a défendu sa thèse, pourquoi depuis 2022, cette loi qui protège les handicaps d'accès aux emplois, pourquoi n'était pas mise en vigueur? Est-ce que c'est parce que les parlementaires n'ont pas eu l'état de siéger à cette question ou pas?
Merci.
La deuxième question.
Allez-y rapidement.
Oui. Maintenant, comment on peut mettre fin à une médisance que les gens font ou à des critiques que les gens font par rapport aux handicaps, aux personnes vivant avec handicap? Merci, monsieur Jeudi, et bonne journée.
Bien, merci à vous également. On va accueillir François Mouela depuis Timbulu. François, bonjour.
Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir invité dans cette émission colossale qui a pour thématique.
Quelle est votre question par rapport aux personnes, aux conditions de vie des personnes vivant avec handicap?
Oui, si nous faisons plus vite l'allusion du côté pays étranger, les handicapés sont vraiment pris en charge et puis ils mangent convenablement, mais ce n'est pas le cas en RDC. Ce que nous avons remarqué, c'est quoi? Le ministre est d'abord concerné, mais c'est pas le nombre de personnes vivant avec handicap. Comment il peut prendre des précautions pour prendre en charge ce genre de gens s'il ne sait pas d'abord le nombre? Et puis, du côté gouvernement, dans le budget, on a prévu quelque chose pour ce genre de gens, mais cela n'est pas appliqué. Où se passe l'amélioration des conditions de vie de ce genre de personnes, ou est-ce que le ministre a placé la somme d'argent qui est destinée pour ce genre de gens? C'est ça la question que nous sommes en train de poser au gouvernement et nous voulons à ce que le gouvernement puisse prendre des mesures de faire que ce genre de gens se trouvent aussi dans de bonnes conditions comme tout le monde parce qu'ils n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas droit à manger convenablement et pourquoi cette discrimination sociale dans notre pays?
Bien, merci. Maître José, à vous la parole.
Merci beaucoup, Jody. Merci à tous les auditeurs qui ont posé leurs questions. Si je dois répondre d'abord à l'autre auditeur de Bounia, qui demande pourquoi la loi a traîné pour être mise en application. Bon, je dois dire, Jody, sans toutefois jeter l'anathème sur notre gouvernement, qu'il y a quand même quelques pas qui ont déjà, mais pas positifs, qui ont quand même été franchis, hein. Il faut dire que nous venons de loin, jeudi. La constitution de notre pays de 2006 prévoit, c'est déjà la première disposition qui, à son article 49, parlait de la personne avec handicap et de la personne de la troisième catégorie, hein, de la personne de troisième âge. Et à son alinéa 2 déjà, c'est de l'article 49 de cette constitution, la loi, comme la constitution dit, l'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales, locales. Une loi organique fixe les modalités d'application de cette loi. Donc il faut dire, je dis qu'avant à l'entrée en vigueur de la constitution qui nous régit actuellement dans notre pays, il n'y avait presque pas de textes nationaux qui régissaient la vie de la personne avec handicap. Et après cette loi, après cet article 49, il a fallu alors que nous puissions faire un grand plaidoyer auprès de des institutions. Je me souviens, et la radio Okapi nous avait longtemps accompagné également à la comment vers les années 2012-2013 quand nous allions avec Machako Mamba au Parlement et tout là pour faire un plaidoyer afin qu'on puisse prendre déjà acte de cette disposition. Il a fallu encore attendre l'avènement de notre président actuel Félix Tshisekedi pour voir un ministre être nommé. Et c'est avec Irène, qui est l'actuelle ministre, que finalement on a pu élaborer cette loi qui a été adoptée par le Parlement et promulguée, dont je vais parler la loi 22/003 du 3 mai 2022 qui porte protection à la personne avec handicap. Donc on vient quand même de loin. Alors, pourquoi ça a traîné? Mais ça a traîné, comme nous le disions toujours lors de nos plaidoiries, quand nous allions, notre plaidoyer plutôt, quand nous allions devant les parlementaires, nous leur disions toujours que parfois les gens pensent que promouvoir ou prendre une loi qui puisse protéger la personne avec handicap, c'est un cadeau qu'on offre à cette catégorie de personnes. Nous disons non, parce que comme nous le disons toujours et nous ne cessons de le répéter, particulièrement durant ces mois de décembre, toute personne bien portante, toute personne valide, c'est une potentielle personne avec handicap qui s'ignore. Et ça, nous le disons toujours aux parlementaires, nous leur disons que d'abord, au-delà du fait que c'est une obligation constitutionnelle qui est de prendre des dispositions pour protéger la personne avec handicap, vous devez savoir également que non seulement que 15% de la population congolaise est frappée d'un handicap dans un sens ou dans un autre, mais vous-même également, nos parlementaires, vous êtes des potentielles personnes avec handicap. Un jour, vous risquerez peut-être de venir rejoindre notre camp. Donc, il y avait parfois une certaine mauvaise foi de la part des dirigeants. Il y en a qui pensaient peut-être que c'était vraiment de menufretins, c'était une loi qui n'était pas prioritaire. Bon, petit à petit, nous avons constaté qu'on a commencé quand même à prendre ça en compte. Finalement, la loi a été adoptée. Finalement, ça a été promulgué. Et finalement, moi, c'est ce qui me réjouit d'abord, c'est le fait de voir que le président de la République lui-même se soit mouillé, comme on dirait, il est mouillé à sa chemise pour aller lancer officiellement la campagne de sensibilisation autour de cette loi. Ça, c'est déjà un pas positif.
Maître José, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on fait la promotion de la présence de personnes vivant avec handicap au sein, par exemple, des institutions nationale, provinciale et locale. Aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve des personnes vivant avec handicap dans les institutions, au gouvernement, dans les entreprises publiques? Dites-nous comment ça se passe.
Non, je dis, c'est ça notre combat encore. Et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À part à elle, notre ministre Irène, qui est au gouvernement central, je ne connais pas des gouvernements, que ce soit provinciaux ou même des services de l'État, qui ont déjà... Nous, ce que nous disons au niveau des personnes avec handicap, on ne doit pas nous accorder des postes par le simple fait que nous sommes personnes avec handicap. Non, nous encourageons la méritocratie. Parmi nous, les personnes avec handicap, il y en a qui sont compétentes. Donc, nous ne disons pas qu'on doit nous accorder des postes tout simplement par pitié, non. Mais parmi nous, il y a des amis qui sont compétents et qui peuvent briguer des postes. Je dis, par exemple, cet article que je viens de dire, l'article 49, façon la linéa 2, dit que l'État a le devoir de promouvoir la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Mais rien n'est fait dans ce sens-là. Mais un autre combat que nous avons mené, je dis, pendant longtemps, c'était de dire aussi, par exemple, maintenant, nous sommes pendant la période de la campagne électorale. J'ai vu que dans la loi électorale, on avait dit qu'il y a un parti politique aligné autant de femmes ou la moitié des femmes, ces partis-là ne paieraient pas à la caution. Ce qui est déjà très bien pour promouvoir la...
Mais il n'y a pas de disposition en faveur des personnes vivant avec handicap.
Voilà. Mais rien du tout en faveur de la personne avec handicap. Nous avons lutté, je dis. Si, par exemple, au niveau national, ça peut être difficile. Pourquoi la loi électorale ne pouvait pas intégrer une disposition qui ferait que, par exemple, pour promouvoir la personne avec handicap, qu'au niveau de nos assemblées, par exemple, provinciales, qu'on puisse avoir un certain quota de personnes avec handicap? Ça existe pour les chefs coutumiers. Pourquoi la loi prévoit que les chefs coutumiers soient cooptés au niveau de l'assemblée provinciale, mais on ne peut pas faire autant pour cette catégorie de personnes avec handicap qui sont déjà marginalisées. Hein? Nous ne disons pas qu'on enverra n'importe qui là-bas. Moi, je crois aussi que les chefs coutumiers aussi, quand ils envoient leurs délégués aux assemblées provinciales, ils n'envoient pas n'importe qui, non. Mais ils cherchent parmi eux
les personnes qui sont compétentes pour aller les représenter. Moi, je crois que Mutatis Mutandis, on ferait de même aussi pour les personnes avec handicap, parce qu'il y en a qui sont compétentes, il y en a qui peuvent également défendre non seulement leurs intérêts à elles, mais plutôt les intérêts également de toute la communauté, parce qu'ils vivent dans la communauté. Mais
Maître
là
José,
encore, on dit tout simplement qu'on doit promouvoir.
Ouais. Maître José, par exemple, pour ces élections, combien est-ce qu'il y a beaucoup de personnes vivant avec handicap qui sont qui ont postulé à la députation, par exemple, nationale, au niveau provincial et à d'autres niveaux et au niveau local?
Ben moi je ça peut-être c'est à la CENI de nous répondre, parce que moi j'ai pas la situation réelle sous les bras, mais ce que je sache, moi, il y avait d'abord Madame Hortense, que j'ai salué d'ailleurs en passant, qui était à Kinshasa, qui avait voulu briguer la magistrature suprême. Eh ben apparemment sa candidature n'avait pas été retenue, je ne sais pas si elle avait postulé. Et au niveau national, moi je vous parle là de la circonscription de Kikwit, je ne vois presque pas des gens, hein. Au niveau de l'assemblée provinciale, je ne sais pas s'il y en a aussi qui ont postulé, mais à Kikwit, il y en a une ou deux comme ça qui ont postulé, hein, pour peut-être être à l'assemblée provinciale. Mais je sais qu'au niveau de municipal et tout le reste, il y a quand même quelques amis qui se sont levés également pour essayer de briguer ces postes-là. Mais je dis, la grande difficulté, c'est quoi également? C'est que maintenant, par exemple, je sais que au niveau des regroupements politiques ou les partis politiques, il y en a qui n'ont pas donné l'argent. Et les personnes avec handicap, pour la plupart, sont déjà peut-être qui n'ont pas beaucoup d'emplois ou qui ont des emplois qui ne sont pas très rémunérateurs. Je ne vois pas vraiment pour le moment des amis en train de lutter à armes égales avec ceux qui ont peut-être travaillé dans les institutions, ceux qui ont eu des moyens. Alors, pour promouvoir réellement la présence de cette catégorie de personnes dans les institutions, je crois qu'on devrait quand même prendre une loi qui ferait une discrimination positive en faveur de cette catégorie de personnes, comme on le fait pour les femmes. Mais ça, en tout cas, jusqu'à présent, notre État s'est limité à prendre cette disposition constitutionnelle. Bon, maintenant, il y a encore cette loi qui porte protection à la personne avec handicap, mais qui devra être mise à l'application. Oui. On est en train de sensibiliser autour de
Maître
ça.
José,
mais espérons alors que...
Oui. Maître José, est-ce que les personnes vivant avec handicap se regroupent, par exemple, dans des associations afin de porter haut leur voix et de mener un plaidoyer?
Ah oui. Non, croyez-moi que les associations, nous en avons les gens. Il y en a, je ne vais pas faire la publicité de certaines associations, des amis qui sont à Kinshasa que je connais, et même à l'intérieur nous avons des associations qui nous luttons, hein, même pour occuper nos postes, notre poste par exemple à la CNDH, là encore il y avait des problèmes aussi, mais les amis, non, il y en a qui travaillent pour que notre voix soit entendue au plus haut point, au plus haut sommet de l'État plutôt, hein. Des marches nous le faisons, les sittings à l'époque, même à l'époque de Machakou et autres, nous avions organisé des sittings, même pour qu'on en arrive déjà à voter ou à examiner rien que cette loi portant protection à la personne avec handicap. Je ne te dirai pas le nombre de fois où nous avons organisé des sittings à Kinshasa et à l'intérieur. Et maintenant, autour de cette journée de l'international de la personne avec handicap, nous, les associations, nous nous sommes levés et nous luttons pour que nos droits soient quand même défendus et que notre voix soit entendue. Oui, les associations, nous en avons, mais beaucoup peut-être souffrent également des manques de moyens, mais disons en tout cas, au niveau de nos bases, nous travaillons et nous luttons pour que nos droits soient entendus. Voilà.
Bien, comment améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec Maître José Zoubi, promoteur de l'ONG Le Verso du Handicap. Des questions et préoccupations, composez le 099-706-99-41.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Comment améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap? Bien, on en parle aujourd'hui avec Maître José Zoubi, promoteur de l'ONG le Verso du handicap. Bien, je reviens à vous, Maître José. Par exemple, dans les domaines de l'éducation, est-ce que vous avez parlé de la discrimination positive? Dans les secteurs de l'éducation, par exemple, est-ce qu'il y a qu'elle prévoit la loi portant pour promotion et protection des personnes vivant avec handicap? Est-ce qu'il y a des dispositions, par exemple, pour dire, par exemple, que les enfants vivant avec handicap peuvent étudier sans Ça, il y a déjà la gratuité, voilà, au niveau de primaire, mais à d'autres niveaux, est-ce qu'ils peuvent étudier sans pour autant payer, donc, voilà, quelques faveurs ou quelques dispositions qui peuvent favoriser l'éducation d'un plus grand nombre?
Merci, Jody, pour la question. Oui, je crois que... Ben, je vais partir d'un exemple concret, hein, c'est que nous faisons ici à Kikwit. À Kikwit, dans la province du Kwilu, là, je dois en profiter également pour remercier nos autorités scolaires ici, notamment l'IPP et les autres, les Proved. Ce que nous faisons pour les enfants, par exemple, les personnes avec handicap même, qui sont dans les écoles officielles ici, nous recommandons ces enfants-là et les préfets des écoles les acceptent quand même. Pour autant qu'ils soient pas nombreux dans une école, parce que sinon ça pose problème aussi. Mais jusque là, nous collaborons bien avec les écoles. Et je dois dire aussi que nous-mêmes aussi, par exemple, notre association, Action pour la promotion et la défense des droits et intérêts des vulnérables, APDIV en sigle, a créé une école ici à Kikwit qui encadre gratuitement les enfants qui sont personnes avec handicap et les enfants dont les parents sont personnes avec handicap. Ces enfants-là étudient gratuitement dans une bonne école qui est une école privée agréée. Ces enfants-là font de très bons résultats, même au TENAFEP. Jusqu'à présent, ça avance bien. Donc, pour ce qui est de la scolarité ou de l'éducation des enfants, de ce côté-là, la loi prévoit quand même la motivation de ces enfants-là pour qu'ils puissent étudier. Et nous croyons qu'au niveau du primaire, ça pose pas beaucoup de problèmes. Jusque là aussi, au niveau du secondaire, dans certaines écoles, on accepte facilement que nos enfants, les enfants avec handicap, et même parfois, maintenant, nous luttons les enfants dont les personnes avec handicap puissent étudier gratuitement. Mais la difficulté, c'est au niveau du supérieur et au niveau des universités. Là, ça devient déjà compliqué de faire accepter à ces autorités académiques. Et par exemple, cet enfant est une personne avec handicap, parce que j'en connais, il y a pas longtemps, j'ai reçu encore un enfant avec handicap à un étudiant d'une institution supérieure de la place qui est venu à mon cabinet pour me poser son problème. Il voulait aller saisir, je crois, un rapport de stage ou quoi, et il me parlait encore des problèmes de frais académiques. Vous voyez, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions lui venir en aide. Donc, oui, je crois que la loi a prévu ça, mais quitte à savoir maintenant comment on va l'appliquer, c'est ça la difficulté, comme toujours. Mais la difficulté, je dis, c'est également après les études, quant au travail maintenant, comment ils vont travailler. Ces enfants vivent avec handicap, quand ils terminent leurs études, que ce soit les études primaires, secondaires et même universitaires, maintenant c'est l'accès à l'emploi. Est-ce que l'État lui-même ne devait pas déjà commencer à donner l'exemple en engageant ceux de ces enfants qui sont diplômés et qui sont compétents? Parce que nous insistons, il suffit pas d'être une personne avec handicap pour aller chercher à briguer un poste, hein, il faut pas y aller en disant même avec les larmes aux yeux, non, moi je suis une personne avec handicap. Nous ne demandons pas la pitié, nous n'avons pas besoin de la pitié, nous voulons seulement qu'on nous respecte et nous-mêmes, personne avec handicap, faisons de notre mieux pour mettre toutes les chances de notre côté afin que quand vous allez vous présenter quelque part pour postuler, que ce soit avec les valides ou les autres amis, que vous puissiez batailler à armes égales, hein, parce que vous êtes intelligent. Mais par contre, pour l'État devait nous encourager pour que quand il y a par exemple deux personnes, une vivant avec handicap et une autre valide, par exemple qui briguerait un poste quelque part, qu'on prenne quand même mesure pour que vivant avec handicap, au cas où par exemple il y aurait même pourcentage ou un test, que cette personne soit quand même favorisée, c'est ce que nous appelons discrimination positive, afin qu'elle puisse vivre parce qu'elle n'a pas toutes ses capacités pour faire son défi de la vie comme les valides. Mais nous disons qu'on ne va pas non plus aller briller les postes parce qu'on est personne avec handicap. On est personne avec handicap, oui, mais en plus, il faut être compétente. Compétente pour relever le défi qui s'adresse à nous, afin que les gens ne continuent pas à nous dénigrer, à nous marginaliser et à avoir des préjugés qui ne sont pas fondés en notre...
Maître José Zoubila, je pense que la loi portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap a prévu la création d'une école de métier spécifique à cette catégorie de personnes. Qu'en est-il de ce projet?
Exact. Pour le moment, je ne saurais pas vous dire, je vous dis, il va falloir que nous puissions nous renseigner, parce que je suis pas dans les institutions, mais ce qui est important d'abord, je dois vous dire, quand ça concerne cette loi, pour le moment, nous sommes d'abord au niveau de la sensibilisation, pour que la société puisse s'en imprégner, mais en plus, non seulement que la société, mais aussi toutes les autorités qui nous gouvernent, en commençant même par nos gouverneurs de provinces, en commençant par toutes ces autorités qui parfois, quand elles voient une personne avec handicap, va avancer vers leur bureau, se barricade derrière leur porte fermée, et puis après, bon, on dit, on ne reçoit pas. Mais que toutes ces autorités s'imprègnent d'abord de cette loi, sachant que c'est une loi qui vient pour concrétiser une disposition qui est constitutionnelle. Et quand c'est une disposition qui est constitutionnelle, cette loi-là vient pour la concrétiser. Donc, tout le monde doit la respecter. Et quand on la respecte, on doit quand même la mettre en application. Dans la province, au niveau des mairies, dans nos districts, dans nos territoires, il faut qu'on respecte cette catégorie de personnes. Mais un autre défi, aujourd'hui, et ça, je crois que la loi aussi l'a bien prévu, c'est d'accorder à cette personne vivant avec handicap une certaine autonomie, surtout financière, et même quant à ce qu'elle fait pour survivre du jour au jour. Qu'est-ce que nous constatons, nous qui sommes à l'intérieur, même à Kinshasa, souvent nous avons eu à lutter cela, contre cette pratique. Une personne avec handicap qui ouvre un petit atelier au coin de la rue, jeudi, c'est déjà une personne qui a du mal à s'en sortir dans la vie. Elle a juste un petit atelier, par exemple, de couture, de cordonnerie ou quoi. Mais les gens de l'État viennent encore là-bas pour lui demander de payer des taxes. Hein? Vous devez payer des taxes, vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Nous disons, ça ne va pas. Oui. Ici, à Kipi, de temps en temps, quand on m'appelle pour aller, par exemple, intervenir dans ces genres de dossiers, heureusement que parfois, nos autorités nous écoutent. Mais c'est déjà une façon de venir empêcher, entraver encore les efforts vers l'autonomie et même sa propre prise en charge de la personne, l'auto-prise en charge de la personne avec un handicap.
Maître José Zoubi, un instant, 099-706-99-41, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour intervenir. Maître José, mais la loi a prévu, par exemple, l'application obligatoire du principe des représentativités des PVH dans les institutions, avec notamment un quota des 5% dans le recrutement à la fonction publique et 3% dans les secteurs privés.
Ouais, ça c'est prévu, mais je vous dis que jusqu'à présent c'est pas encore mis en application, je dis. Donc maintenant on est au niveau de la sensibilisation, parce que ça venait d'être promulgué. Le chef de l'État, je répète, a lancé officiellement la sensibilisation autour de cette loi-là. Mais il va falloir que l'État lui-même d'abord prouve, le gouvernement central donne d'abord le ton, par exemple en disant maintenant on a recruté ces 5% des personnes avec handicap au niveau, par exemple, des institutions, soit à Kinshasa, et même on verra alors comment ça va être appliqué à l'intérieur. Ça, c'est ce qui est couché dans la loi aujourd'hui. Je vous dis qu'entre ce qui est écrit et ce qu'on fait sur terrain dans notre pays, il y a toujours malheureusement une grande marge de séparation.
Bien, on va accueillir Glody de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Glody?
Oui, merci. Moi, je pense qu'on doit nécessairement encourager les handicapés dans notre pays. Mais parfois, quand vous prenez le temps de se promener au niveau de la ville, vous allez se rendre compte que quelqu'un qui a d'abord des difficultés pour manger, qui a des difficultés pour se déplacer, lorsqu'il crée une activité, et ce sont toujours l'État qui vient encore auprès de ces gens-là pour payer l'impôt. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité de réduire un peu devant leur cas? Parce que c'est compliqué.
Vous voulez parler de qu'on leur accorde des exonérations, c'est ça?
Bien sûr. Que l'État puisse mettre certaines grâces, il puisse mettre certaines exonérations par rapport à l'air. Du moins, je pense que c'est une façon de les aider. Qui est encore de le faire consommer, et vous voyez que ce n'est pas du tout intéressant. C'est un peu peut-être ce que j'ai voulu contribuer dans cette émission.
Merci. Maître José Zoubi.
Merci beaucoup. Ben, je crois plutôt que c'est ce que vous venez de dire, hein, et je le disais tout à l'heure avant que l'auditeur ne pose sa question, c'est que, à l'intérieur ici, nous luttons, et même à Kinshasa, à plusieurs reprises, je suis intervenu dans ces genres de dossiers, et parfois, quand vous trouvez une autorité qui est assez sensible et qui a une oreille attentive, généralement, ils finissent par comprendre, hein. Mais parfois, ce ne sont pas vraiment des grandes autorités au niveau du bureau, ce sont plutôt ces envoyés, les taxateurs qu'on envoie dans la rue, au marché, et ce sont ces gens-là, parfois, qui ne tiennent compte de rien du tout, hein, qui viennent, même quand on dit que la personne fait un handicap. Il y en a qui me suivent ici à l'intérieur. On m'appelle partout pour aller. J'ai un petit atelier de couture. On me demande de l'argent. J'ai ouvert une petite pharmacie. Moi, tout ce que j'ai dit, par exemple, quand vous devez une pharmacie au nom de votre ONG qui défend la cause des personnes avec handicap, vous ne devez pas violer la loi non plus. Il faut quand même que les services de l'État passent pour contrôler. Juste pour voir si, par exemple, vous avez, les services de l'environnement pour voir si c'est conforme. Et puis voilà. Les services spécialisés pour voir un peu. Mais, pour les restes là, les impôts et tout, on ne paye pas parce qu'on n'a pas de moyens. Hein. Même l'autorisation d'ouverture, on ne va pas demander à ces gens-là de payer encore de l'argent parce qu'ils n'en ont pas. Mais par contre, l'État doit leur venir en aide pour leur donner des moyens afin qu'ils se prennent en charge. Autrement, ça serait seulement les étouffer et les condamner à la mendicité. Je me demande s'il y en a qui ne prennent pas plaisir à voir les personnes avec handicap être tous les jours dans la rue pour aller mendier. Hein. Et je crois que c'est déshonorant pour nous tous parce qu'une société où il y a autant de mendiants, c'est déshonorant en elle-même aussi. Mais nous croyons qu'avec cette loi maintenant, tout ce qui est écrit là-bas devra être mis à l'application, surtout que le chef de l'État actuel lui-même s'est impliqué. Et nous espérons que peut-être bah, les gouvernements qui viendront par après feront également en sorte que cette loi ne soit pas reléguée aux oubliettes et que plutôt tous, à quelques niveaux que nous soyons, que nous puissions la promouvoir. Parce que je rappelle encore, la question de la personne avec handicap ne concerne pas une certaine catégorie de minorité des gens, mais même ceux qui sont valides aujourd'hui peuvent se retrouver du jour au lendemain dans cette catégorie des personnes. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que toutes les dispositions qui y sont inscrites soient mises à l'application. Ça va de l'intérêt de nous tous.
Voilà. 0-99-706-99-41, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je salue aussi M. Joseph.
On vous écoute.
Bon, je veux que M. José puisse un peu nous expliquer, quand on parle d'une personne vivant avec handicap, on fait allusion à quelle catégorie de la personne. Hein? C'est un peu nous expliquer clairement, selon l'esprit de la loi, quand on parle d'une personne vivant avec handicap, il s'agit de qui? Ça, c'est très important. Et puis, moi, je pense que il fallait aussi condamner la mendicité. Vous savez que la mendicité est interdite, hein? Mais nous voyons les soi-disant handicapés partent faire la mendicité publique et ils sont pas inquiétés. Je veux que la loi d'abord puisse s'appliquer à leur égard. Et de là, je voulais aussi dire aux handicapés qu'ils sont comme toute personne. Et si on dit qu'ils ont certains droits un peu spécifiques, ce n'est pas dans le sens qu'ils amènent des choses là. Ils sont comme toute personne, ils peuvent faire de grandes choses parce que on a des handicapés. Mais par exemple, qui a des bras, qui ne fonctionnent pas, des jambes, qui ne fonctionnent pas, mais qui font travailler leur tête. Je peux même vous donner l'exemple de M. José. Même M. José, c'est un monsieur qui, à mon avis, hein, qui existe grâce à sa tête. C'est un grand journaliste, c'est un grand penseur, et de ce passé-fait-là, il peut vivre.
C'est un grand entrepreneur, malgré son handicap.
Oui, je le connais, mais il fait travailler sa tête. Moi, je sais que c'est un monsieur vraiment qui fait travailler. Alors, les handicapés doivent d'abord retenir cela, qu'ils sont comme toute personne. Ils peuvent, par rapport à leur capacité, faire aussi beaucoup d'autres choses pour être autonomes.
Mais je voulais aussi... Mais, par exemple, Maître Gaston, on les voit tout souvent à Kinshasa, au niveau du Beach Ngobila. Ils sont très entreprenants, ils font Kin Braza, ils font des affaires. Bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas jusqu'à ces jours.
Tu sais, ils sont entreprenants, comme je l'ai dit, ils peuvent l'être, mais ils jouissent d'autres certains droits qu'ils ne doivent pas, à mon avis, jouir. Par exemple... Le maître José est en train de dire là-bas qu'il ne doit pas obtenir la qualité de commerçant. Il doit avoir les documents que tout commerçant doit avoir pour exercer. Non, ça, ce n'est pas parmi les droits que les handicapés doivent avoir. Lorsqu'ils s'engagent dans une activité commerciale, ils doivent se conformer et vivre comme tout commerçant. C'est ça, c'est ce que prévoit la loi. Et lorsque vous demandez qu'il n'aille pas... D'ailleurs, aujourd'hui, on parle plus d'autorisation d'ouverture, quand on parle plus de registre de commerce, c'est le guichet unique qui est censé vous donner cette qualité de commerçant, bien que sur le terrain, nous voyons les services de l'État passer en désordre, même s'ils n'existent plus, et percevoir les sommes qui ne rentrent même pas dans ça, c'est vraiment un désordre général qui considère tous les qui concerne tous les entrepreneurs. Donc, ce ne sont pas des pareils droits. Peut-être certains droits où les gens, par exemple, qui sont valides, ont la facilité d'y accéder et on peut les faciliter la tâche pour ne pas concourir.
Maître Gaston, vous avez dit que la mendicité est punie par la...
Oui, mais on devrait punir les handicapés, surtout physiques, c'est ce que je vois.
Voilà, il y a même un auditeur qui m'a envoyé l'article 50, dit « est puni de 7 jours à 2 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs congolais ». Ou de l'une de ces peines seulement, toute personne avec handicap qui exploite sa condition de vulnérabilité pour enfreindre à la loi dans le but de procurer un bénéfice quelconque à soi-même ou à un tiers.
Voilà. Et puis au-delà de cela, vous les verrez vous imposer. Moi, j'étais gérant. Ils entrent dans les structures.
Dans les magasins.
Ils vous imposent. Ils sont même prêts à vous brutaliser. Donc, vous leur dites, ils sont même prêts. Et je vois même les autres services de la commune, soi-disant, les affaires sociales, la soutenir des pareilles actions. Non!
Merci, Maître Gaston. Bon. Maître José, vous avez la parole.
Merci,
Je dois d'abord saluer Maître Gaston. Merci pour toutes ces questions qu'il m'a posées. J'espère que nous nous reverrons encore dans les prochains jours. Bon, moi, la question, au fait que j'ai retenu l'intervention de Gaston, c'est qu'il voudrait seulement savoir la définition par rapport à la loi actuelle. Mais par rapport à la loi, lui, il la connaît très bien parce que il est juriste aussi. C'est que la loi dit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles. Et maintenant, on ajoute aussi la catégorie de nos amis qui sont les albinos et même les gens qu'on appelle les, bon, qui sont aussi les nanismes, c'est-à-dire les des petits nains là. Bon, il y a encore maintenant, on considère même nos amis
qui souffrent de l'autisme. Oui.
Voilà, et l'autisme et tout le reste. Donc, c'est toute altération des capacités physiques d'une personne pour communiquer avec son environnement. C'est ce qu'on appelle personne avec handicap. C'est-à-dire que c'est juste une certaine déficience, une certaine altération, une certaine incapacité à, c'est, comment donc, à communiquer avec son environnement, comme on dit qu'a suivi une personne par rapport à une ou l'autre faculté de sa vie, de son être. Bon, parlant de la mendicité, je dois dire à Gaston, Alphonse, nous n'encourageons pas la mendicité. Crois-moi que la mendicité, d'abord, c'est rabaissant. C'est rabaissant pour nous-mêmes. Nous l'avons toujours dit et nous le disons à nos amis. Et même moi, quand j'en vois comme ça qui mendie, parfois je m'arrête, il m'a dans ma voiture, je le fais monter dedans et puis je l'amène là où il va aller, ou alors je l'empêche en lui donnant quelque chose. Mais c'est vrai que la mendicité est condamnée. C'est une infraction. C'est une humiliation même pour nous-mêmes. Mais, et puis, je dois dire aussi que la plupart de ces personnes qui mendient dans la rue ne sont pas, malheureusement, toutes personnes avec handicap. Et on voit aussi des valides qui sont en train de mendier maintenant. Et toutes ces mamans qui sont dans des ronds-points à Kinshasa, qui cachent les enfants à côté, viennent vous dire, oh non, moi, la zobe, là, toi, moi, la zaboye, la zanamoine, il faut pas perfiser. Tous ces gens-là, ce sont des mendiants tous. Donc, ça rabaisse notre société. Mais par rapport à la personne avec handicap. Ce que nous demandons, nous, c'est qu'on puisse prendre des mesures tout simplement pour que elle puisse être en mesure d'avoir le strict minimum pour survivre dans la société. Donc, déjà, j'ai dit à l'entrée de l'émission que la vie des Congolais est déjà difficile. Mais rendez-vous compte, mettez-vous dans le contexte des personnes avec handicap, surtout nos amis qui ne travaillent pas. Nous leur disons peut-être le fait que vous ayez un handicap au niveau de vos membres ne vous empêche pas de réfléchir. Si vous avez, par exemple, un problème au niveau des jambes, vous pouvez travailler avec vos mains. Et nous avons de très bons coordonnées. Nous avons des amis qui sont de très bons couturiers, les tailleurs et tous les autres, qui font quelque chose et qui ne mendient pas. Mais l'État devait, alors, ce que nous demandons à l'État, c'est de prendre des mesures qui puissent encourager cette catégorie de personnes. Moi, je suis toujours fier, je dis, chaque fois que je suis à Kinshasa, je ne passe jamais un soir à Kinshasa sans aller au resto de mes amis sur Willery, là. Hein? Je gagne ma vie.
Oui.
Voilà, aux sources de vie. Là, je vais toujours. Parce que ça me fait plaisir d'être dans cet environnement-là où je vois les amis avec handicap qui préparent, qui vont servir et qui sont habillés. Et moi, quand je sors mon argent, je paye des amis comme ça. Je suis très content parce que je sais que je contribue à leur vie aussi, à leur survie et surtout à leur autonomie financière. Donc, c'est quel État devait faire ce que vous demandez à l'État? C'est justement d'encadrer cette catégorie de personnes en évitant d'imposer encore des mesures qui puissent les décourager ou les dissuader de commencer une petite activité, tant soit, même si elle est petite, afin de se prendre en charge. Donc, s'il y en a qui veulent, par exemple, commencer une petite activité quelque part, le mieux serait qu'on puisse, si pas leur donner des moyens financiers, mais leur accorder une certaine facilité, par exemple, au niveau de l'obtention des documents, au niveau peut-être de l'encadrement, je ne sais pas dans quel genre, et même de les sécuriser, parce qu'il y a maintenant tous ces courants-là dans les quartiers et tout le reste. Bon, ces catégories de personnes, je pense qu'elles méritent d'être sécurisées et d'être mises dans un environnement tel que elle pourrait bien se prendre en charge aussi.
Maître José,
nous n'encourageons pas la mendicité.
Oui, Maître José, aujourd'hui, par exemple, dans les domaines des bâtiments, construction, il semble qu'il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre pour aider les personnes à mobilité réduite.
Oui, de plus en plus, je dis, ça aussi, c'est un défi que notre société doit relever. Et c'est un combat que nous menons aussi depuis des années déjà. Parce que il n'est pas admissible, je dis, que par exemple, pour accéder à un bâtiment de l'État, nous qui marchons, par exemple, difficilement avec des béquilles ou autres, vous puissiez encore chercher à gravir les marches et les marches. C'est pas possible, je dis. Et maintenant, la loi impose à ce que, quand on construit, par exemple, un édifice public, et même, je crois qu'au niveau même des supermarchés et tout le reste, on doit prendre des dispositions pour que la personne avec handicap puisse y accéder facilement.
Hein? Et là, je dois dire que même l'ordre des ingénieurs, même j'ai parlé une fois là avec certains amis qui étaient dans la construction, on nous a dit que maintenant, de plus en plus, on leur impose de veiller sur cet aspect des choses-là. Vous ne devez pas construire un édifice public sans prendre disposition pour que la personne avec handicap puisse y accéder facilement. Donc, de ce côté-là, il y a quand même des efforts à faire et nous encourageons ceux déjà qui essayent de se mettre à la page.
Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi, 099-706-9941. C'est les numéros pour intervenir dans cette émission. Jérémy Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody, hein. Bonjour également à l'invité. Moi, je trouve que la prise en charge, n'est-ce pas, des personnes avec handicap, vraiment, c'est un sujet très important parce que, vous savez que, je salue quand même le gouvernement, via les présidents de l'État qui a pris un peu en compte cette situation jusqu'à créer un ministère. Ce qui est un geste à saluer à juste valeur, mais je me dis, mais il y a encore du chemin à parcourir. C'est notamment, n'est-ce pas, question de pouvoir mettre de moyens conséquents pour pouvoir, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, à réguler et cette donc catégorie de personnes qui semble, n'est-ce pas, être marginalisées. Alors moi je me dis, il faut que normalement qu'on puisse un peu ce qu'on appelle décentraliser l'affaire. Ça veut dire que le gouvernement doit donner aussi un peu du pouvoir dans des provinces via, n'est-ce pas, les chefs des exécutifs. Question de pouvoir, n'est-ce pas, révolutionner un peu ce registre social qui, ça, à mon avis, semble être oublié, parce qu'il y en a qui, jusque-là, certains se sont convertis à des personnes qui font peut-être encore des situations compliquées pour notre pays. Alors moi, je me dis, il faut maintenant, c'est le moment de pouvoir prévoir des espaces pour leur octroyer quand même des services pour pouvoir, n'est-ce pas, les amener à faire des choses, comme je le vois ici à Lubumbashi, où on voit certains en train de faire des cirés, de faire certaines, ils sont occupés, et certains aussi font d'autres choses, quand même, qui semblent, n'est-ce pas, oublier l'état dans lequel ils se trouvent. C'est ce que nous voulons. Parce que,
et la loi prévoit la création d'une école des métiers pour cette catégorie de personnes.
Effectivement, tout est possible. Qu'est-ce qu'il faut? C'est question de pouvoir, les ministères qui en charge. Un secteur comme épiné comme celui du social. C'est juste que là, quand vous regardez, le social dans notre pays est à la traîne. Il faut qu'on puisse, le ministère doit révolutionner donc cet espace. Question de pouvoir faire les choses de manière à ce que notre pays avance, parce que nous avons besoin de tout le monde et personne ne peut être marginalisé. Il faut que réellement que tous ces gens soient et se sentent quand même à l'aise dans des conditions favorables, c'est en créant des écoles comme ça où on forme des gens. Comment leur apprendre des métiers au courant, donc dans leur vie, ça peut aussi amener quelque chose et ça peut aussi booster l'économie de notre pays. Et il y a des indices qui peuvent amener quelque chose dans notre pays. Mais quand on essaie d'oublier ces gens, ce qui veut dire qu'on les contraint à mourir vite pour les uns. Et pourtant, il faut que réellement que nous puissions considérer tout le monde.
Jérémy, là par exemple à Lubumbashi, est-ce qu'il y a des écoles pour les aveugles et les sourds-muets? À travers l'interprétation en langue des signes et l'écriture braille.
Tout à fait. Il y en a au niveau de Bel Air. C'est un quartier Bel Air où je vois, il y a ceux-là, les malvoyants, et ceux-là qui ont des problèmes d'entendement. Nous les voyons là-bas très occupés d'ailleurs. Et j'encourage quand même ceux qui sont là, qui les occupent, je les encourage parce que vous savez, c'est déjà un plus. Si nous pouvons, et ici à Lubumbashi, cela pourrait peut-être se répercuter dans chaque quartier. Ça peut amener les choses à aller de l'avant.
Bien, merci. Merci Jérémy Mwamba. Maître José Zoubi, il y a tout un ministère qui s'occupe des PVH, des personnes vivant avec handicap. Alors, y a-t-il un programme? Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère pour promouvoir, surtout vulgariser la loi et s'assurer de la mise en application des dispositions qui s'y trouvent?
Bon, pour le moment, je dis, moi, je ne saurais pas parler au nom du ministère parce que, je m'excuse beaucoup, mais je suis en dehors du ministère, donc je connais rien de ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'un jour, vous pourrez inviter soit la ministre elle-même, soit un de ses représentants, et le mois de décembre, c'est le mieux indiqué pour qu'elle puisse peut-être vous présenter son bilan, ce qu'elle a déjà fait, ce qui reste à faire et tout, voilà. Parce que je crois que même après elle, il y aura peut-être quelqu'un d'autre à partir d'où cette personne-là pourra commencer, ou c'est elle-même qui continue, qu'est-ce qu'elle devra faire. Ça, peut-être vous ferez mieux de lui demander, mais moi, je ne saurais vraiment pas faire un bilan de son action. Désolé.
Mais pourquoi vous ne voulez pas approcher le ministère? Il n'y a pas de collaboration? Vous ne travaillez pas en synergie?
Non, je me dis plutôt que moi, de temps en temps, d'abord, je suis à l'intérieur et puis les quelques rares fois, donc je ne vois pas d'informations circuler. Donc, je ne connais rien. Je suis désolé, mais je connais rien. Peut-être qu'un jour, vous pourrez lui demander de vous présenter son bilan. Mais je crois que moi, tout ce que je vois, moi, c'est ce qui s'est passé à l'officiel. On a eu à lancer la campagne de sensibilisation autour de la loi portant protection de la personne avec handicap. Et puis, voilà, et c'est le chef de l'État qui l'a fait. Qu'est-ce qui est fait réellement au niveau du ministère? Non, franchement, je connais rien.
Bien. Alors, pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et surtout, permettre l'application de ce qui est prévu dans la loi. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour faire avancer les choses? La loi est là, mais elle doit être appliquée. Qu'est-ce qu'il faut pour faire avancer les choses?
Ce qu'il faut pour faire avancer les choses, c'est le chef de l'État a déjà fait. Commencer à sensibiliser autour de la loi. Ça, c'est déjà fait et ça doit s'intensifier au niveau de nos villes, au niveau de nos territoires, de nos districts. Et après, quand on aura sensibilisé, il faudra encore que toutes les autorités s'en imprègnent, que les autorités comprennent les bien fondés de cette loi-là et qu'on essaye de l'appliquer concrètement. Nous disons toujours, je dis, que quand on fait quelque chose pour nous, mais sans nous, c'est contre nous qu'on le fait. Donc, c'est que nous demanderons également aux autorités qui sont censées faire appliquer cette loi de savoir travailler en synergie avec les OPH, c'est-à-dire les organisations des personnes vivant avec handicap qui sont dans leur territoire, dans leur ville, dans leur province, essayer de les identifier, travailler avec ces OPH-là. Parce qu'il faut pas que, de toute façon, elles ne seront pas bien vulgarisées sans se faire accompagner de ce OPH là. À notre niveau également, personnes avec handicap, nous avons quelque chose à faire. C'est ce que nous faisons. Par exemple, là, la semaine passée, nous avons sillonné presque beaucoup de médias de la ville de Kikwit ici pour parler autour de la personne avec handicap, sensibiliser. Et maintenant, durant tous ces mois de décembre, nous allons sensibiliser autour de la loi encore, la lire dans les médias, l'expliquer. Au niveau des médias également, ce que nous demandons, c'est nous aider aussi à faire la vulgarisation de cette loi pour que les gens puissent la comprendre. Peut-être qu'il serait également bien de la traduire dans nos langues nationales, Kikongo, Chiluba, Swahili, et que tout le monde comprenne les bien fondés de cette loi afin que nous puissions bien la mettre en pratique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme disait Lumumba, un droit ne se donne pas, un droit s'arrache. Nous avons déjà fait un grand pas en arrivant jusque déjà à avoir cette loi. C'est déjà un grand pas qui a été effectué, mais il y a encore beaucoup à faire et savoir que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et croire que les choses iront maintenant de soi. Non, nous devons savoir que maintenant, c'est encore un pas qui est franchi dans la bonne direction. Maintenant, à nous de continuer et relever d'autres défis qui restent encore, notamment cette gratuité au niveau de l'enseignement, même universitaire, pourquoi pas, et surtout qu'on puisse respecter ce qui a été dit à l'accès à l'emploi en termes de 5% au niveau de la fonction publique et 3% au niveau
du secteur privé.
Et puis, c'est le secteur privé. Et voilà, donc, toutes ces dispositions-là, il va falloir, en plus, peut-être les faire accompagner aussi des mesures coercitives. C'est-à-dire que savoir qu'une entreprise, par exemple, qui n'a pas 3% dans ses effectifs de personnes avec handicap devrait payer quelque chose à l'État ou peut-être dans la caisse des personnes avec handicap. Je crois qu'il y a un mécanisme qui est prévu pour que ce genre d'entreprise soit sanctionné. Donc, il va falloir alors qu'on puisse appliquer toutes les dispositions qui sont réellement reprises dans la loi. Et voilà, ça va aider à la vulgariser et surtout à la mettre en pratique afin que ça puisse répondre aux objectifs qu'on s'était assignés en essayant de l'adopter en la promulguant. Voilà.
Bien, Maître José Zoubi, promoteur de l'ONG Le Verso du Handicap, merci d'avoir accepté de participer à cette émission depuis la ville de Kikwit. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, excellente journée, Maître José, et à la prochaine.